Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Voilà, et on va lire trois textes en vue de la prédication. Donc le passage principal sur lequel va reposer la prédication se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, et on va lire les versets 1 à 15. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau : « Ne réponds-tu rien ? » « Vois tout ce dont il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Un nommé Barabbas était en prison, avec des émeutiers pour avoir, lors d'une émeute, commis un meurtre. La foule monta et se mit à demander ce qu'il avait coutume de faire pour eux. Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les principaux sacrificateurs soulevèrent la foule pour que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit : « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau : « Crucifie-le !» Pilate leur dit : « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort : « Crucifie-le !» Pilate voulut satisfaire la foule et leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Et donc on va avancer un bout dans le Nouveau Testament jusque dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et on lira les versets 1 à 3. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. » Et puis, un saut en arrière, jusque dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, on va au chapitre 53, et ce sera le verset 7. « Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. »
Le Saint-Esprit n'agit pas juste pour nous faire plaisir. Il nous confronte à notre situation et parfois nous montre notre péché pour nous en délivrer. Alors une question que je peux nous poser, c'est : avons-nous déjà été confrontés à notre péché en lisant la parole de Dieu ? Si ce n'est pas le cas, nous ne pouvons qu'implorer Dieu que l'Esprit agisse dans les cœurs afin que nous soyons convaincus de péché et que nous regardions à la croix pour la délivrance. Quelle joie ! Nous allons de nouveau étudier la vie de Jésus-Christ ce matin. Nous revenons dans l'évangile de Marc. Celui que nous aimons, nous voulons voir qu'est-ce qu'il a vécu. Celui dont nous sommes fiers, celui que l'on veut suivre, celui qui est notre raison de vivre, est donc l'objet de notre attention ce matin dans l'évangile selon Marc. Nous parcourons cet évangile depuis plusieurs années maintenant, puisque chaque dernier dimanche du mois, eh bien, nous sommes dans l'évangile selon Marc. Et nous arrivons maintenant donc à son dernier jour de vie dans son corps comme le vôtre et le mien. C'est son dernier jour de vie, en fait, dans son corps comme le vôtre et le mien. Et Jésus, ce matin-là, est condamné par les chefs qui lui avaient déjà fait un procès truqué durant la nuit. Et après une condamnation, ils font semblant d'être légal. Hein, ils font ça vite le matin pour que ça soit légal. Ils lient Jésus et l'amènent à l'autorité qui appartient le glaive. Hein, ceux qui ont le droit de mettre à mort à cette époque-là. Et si vous avez vos Bibles ouvertes, et je vous encourage à l'avoir ouverte dans Marc 15, dans le verset 1, le terme utilisé pour le fait d'aller amener Jésus chez Pilate est le même que pour Judas. Les principaux sacrificateurs livrent Jésus à Pilate. Ils le livrent. Et plus tard, Pilate le livrera pour être crucifié. Donc le terme utilisé est le même que pour Judas. Les principaux sacrificateurs livrent Jésus à Pilate. Et plus tard, il livrera Jésus pour être crucifié. Jésus est transmis d'une étape à l'autre. Hein, et personne n'en veut, on pourrait dire. Quel malheur lorsque l'on comprend que c'est le Fils de Dieu. Mais quelle grâce lorsque l'on comprend que c'est ce qu'il avait prévu pour que nous puissions être sauvés. Marc est assez bref dans ce qu'il nous dit sur Pilate, qui est le représentant de Rome à ce moment-là. En fait, Marc écrit sa lettre aux chrétiens qui sont à Rome, du temps de Néron, un temps assez difficile, un empereur très cruel. Et donc, il ne fallait pas trop parler en mal des Romains ou s'étendre sur des actions romaines douteuses. Voilà une des raisons qui, je pense, a conduit Marc à ne pas être trop détaillé par rapport à Pilate. Mais il nous donne les éléments nécessaires pour comprendre. C'est vrai que les autres écrits de Matthieu, de Luc et de Jean donnent d'autres précisions sur ce qui s'est passé chez Pilate, en parlant de sa femme qui a eu un songe, ou de l'envoi chez Hérode, ou de son lavement des mains. Hein, c'est assez connu par rapport à Pilate. Et Luc, d'ailleurs, parle même de sa cruauté dans le chapitre 13. Tout cela est historique. D'ailleurs, les historiens Flavius Joseph et Philon nous rapportent aussi des actes de répression et de dureté de Pilate. Mais pour cette prédication, nous nous concentrerons principalement sur ce que Marc nous transmet. Et donc, il parle de Pilate uniquement dans ce chapitre 15 de Marc. Il est conduit par le Saint-Esprit, il a choisi de nous dire certaines choses et nous chercherons donc à déjà bien comprendre ce qui est ici dans le texte. Donc ce matin, nous allons observer Pilate en face de Jésus, et Pilate sera aussi pour nous un contre-exemple qui nous fera admirer notre grand gouverneur souverain du monde. Alors pour commencer, nous allons voir comment se passe la première rencontre de Pilate avec Jésus. C'est la première fois en fait qu'ils se parlent. Deuxièmement, nous verrons quelle stratégie Pilate utilise-t-il pour juger Jésus. Et nous terminerons par réfléchir à que fait Pilate face à la foule concernant Jésus. Donc reprenons le texte de Marc pour bien en être imprégné et ensuite entrer dans quelques considérations. Donc Marc 15, on relit les versets 1 à 5. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois tout ce dont il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Nous voyons dans ce texte ici, dans les versets 2 à 5, deux parties qui sont séparées dans le temps. En fait, entre le verset 3 et 4, Pilate a envoyé Jésus chez Hérode. Mais ça, Marc n'en parle pas. Mais pour commencer, nous voyons Pilate allant droit au but. Pilate va droit au but. Et là, Jésus répond. Et ensuite, nous voyons Pilate qui entend les accusations des sacrificateurs, qui incite Jésus à répondre, et il se trouve face à un Jésus muet. Donc premièrement, Pilate va droit au but. Jésus lui répond. Pilate commence son interrogatoire par une question qui est une traduction de ce que signifie le Messie ou le Christ ou l'Ouin, si vous voulez, c'est toute la même chose, on a déjà vu ensemble. Messie en hébreu, Christ en grec et Ouin en français. Mais pour les Romains, Messie, ça ne voulait pas dire grand-chose. Donc pour eux, c'est roi des Juifs. Quand on dit roi des Juifs, c'est une onction royale, si vous voulez, hein, qui est donnée. Donc Pilate commence son interrogatoire pour une question qui est une traduction de ce que signifie le Messie, hein, pour les Romains, le roi des Juifs. Cette première question est la seule où l'on peut penser que Pilate contrôle quelque chose dans cette histoire. Là, il fait son travail de juge. Il pose une question précise. Et à ce moment-là, Jésus répond. Jésus ne répond pas oui. Vous avez déjà vu dans le texte, il ne répond pas oui. Il répond, tu le dis. Tu le dis. Pourquoi? Parce qu'il veut engager Pilate à réfléchir. À réfléchir. Déjà, est-ce qu'il le croit ou non, qu'il est le roi? Est-ce que, de qui a-t-il reçu cette information? De quel type de royauté s'agit-il? Parce que si Jésus avait simplement dit oui, eh bien, il serait condamné sur un malentendu. Parce que Pilate n'avait pas la même vision du roi des Juifs que la vision que Jésus avait de son royaume. Parce que pour lui, un roi des Juifs, c'était un rebelle qui voulait se révolter contre Rome. Et ce n'était pas le cas de Jésus. Et il semble que les principaux sacrificateurs ici ne laissent pas Pilate faire son travail de juge. Ils portent des accusations contre Jésus. Ils ne laissent pas le temps de réfléchir. Alors déjà une grande différence, j'ai dit qu'on parlait de contraste hein, de Pilate et ensuite de Jésus, une grande différence entre Pilate et le juge qui va droit au but, qui se laisse ensuite détourner de son travail de juge, ça c'est Pilate, il va droit au but et ensuite il se laisse détourner de son travail par tout ce qui arrive, toutes les fausses accusations. Mais le Jésus qui est le juge qui va revenir ne cherchera pas ses propres intérêts, ne se laissera pas détourner de la justice. Il ira droit au but et restera dans la justice. Pilate donc entend les accusations. Hein, il se laisse égarer. Pilate est témoin de ces accusations portées contre Jésus. Il est conscient d'ailleurs que ce sont de fausses accusations. Marc est très court, mais on a tous les éléments. Il dit même que Pilate a bien vu que c'était par jalousie qu'ils étaient venus. Donc il est conscient que ce sont de fausses accusations. Et toute personne normalement constituée, franchement, quand on fait des fausses accusations contre vous et que vous risquez gros, qu'est-ce que vous faites? On se défend, c'est normal. C'est une réaction habituelle, c'est une réaction qui est quelque part juste aussi. Hein, afin d'éviter une fausse condamnation. Mais Jésus ici ne répond rien. Rien du tout. Il est en train d'accomplir ce qu'Ésaïe avait annoncé. On l'a lu tout à l'heure. Ésaïe, c'est des centaines d'années avant. Hein, il n'était pas là avec Jésus à ce moment-là. Des centaines d'années avant, il a dit qu'il a été maltraité. Il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Et Marc souligne cela pour les chrétiens de Rome. Il sait qu'ils sont dans des situations difficiles, qu'ils sont faussement accusés. Et il veut souligner la manière dont Jésus a fait face à cela. D'ailleurs, Marc, nous le savons, nous l'avons déjà vu, est quelque part l'interprète ou celui qui transmet ce que Pierre a donné. Hein. Et Pierre, dans son épître, fait de même. Hein, si on regarde dans Pierre, 1 Pierre 1, dans 1 Pierre 2, versets 20 à 24, je vous le lis. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Jésus-Christ a accompli et vécu cela pour que nous puissions être sauvés et il nous donne un exemple. Mais quel contraste entre le premier Adam, alors si on revient tout au début, hein, et le second Adam. Adam dans le jardin était coupable et il a tenté de se justifier. Alors que le second Adam, Jésus, était innocent, mais il n'a pas cherché à se défendre. Quel contraste! Et Pilate, qui ne connaît pas tout ce que cela signifie, est tout de même étonné. Le terme utilisé pour l'étonnement de Pilate, dans le verset 5, est un terme qui, si je vous le dis qu'en anglais il est traduit « amazed », ça peut peut-être commencer à vous aider à comprendre. Hein, ça, peut-être le chant « amazing grace » vous dit quelque chose, un terme qu'on n'arrive pas vraiment à traduire d'ailleurs, hein, un étonnement admiratif. Pilate est en fait un tournant de sa vie ici. Il est, dans un sens, admiratif de Jésus. Il va même souligner qu'il n'y a pas de mal en Jésus. Il va même chercher à le libérer. Pilate demandera même à la foule une question, dans un sens rhétorique, mais quel mal a-t-il fait? Pilate sait qu'il est face à un innocent. Une personne particulière, capable de ne pas répondre à des fausses accusations alors que cela le mène à la mort. Et d'ailleurs, chez les Romains, si l'accusé ne répondait pas aux accusations, eh bien, c'est les accusations qui faisaient foi et qui étaient utilisées. Mais combien de personnes comme Pilate sont peut-être admiratives de Jésus ? Sont certaines que c'est quelqu'un de bien et que suivre son enseignement est une bonne chose. Jésus est innocent, mais choisissent de ne pas tout risquer pour lui. Comme Pilate. Venir à l'église, d'accord. Parfois participer à une étude biblique et surtout participer à des camps parce que c'est cool. Hein, et on fait trop de choses bien, il y a même des temps chill, spi, c'est super motivant pour les 2 semaines qui suivent. Pilate aurait fait tout cela, mais pratiquer la justice, prendre parti pour Jésus devant des moqueurs, vivre ensuite tous les jours normaux, ayant pris parti pour Jésus, non merci, dit Pilate. Si nous regardons Jésus ici, nous pouvons prendre une application pour nous, en étant d'abord reconnaissant pour son œuvre parfaite sur laquelle nous allons nous appuyer pour être sauvés. Il a tout accompli. Et parce qu'il a tout accompli, nous allons pouvoir le suivre dans ce qu'il a vécu. Jésus a patiemment supporté l'injustice. Jésus a patiemment supporté l'injustice. C'est une marque du chrétien. Et il n'a pas péché face aux méchants. Quel encouragement à vivre le psaume 39, verset 2 pour les lecteurs de Marc. Psaume 39, verset 2, il est écrit « Je disais, je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. » Je garderai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Et Jésus avait des accusateurs devant lui, méchants, il n'a pas ouvert la bouche. Il l'a vécu pour notre perfection et nous voulons en retour vivre à sa suite. Et bien souvent, ne pas répondre aux fausses accusations est la meilleure chose à faire parce que nous avons un avocat auprès du Père. Nous serons jugés par Christ sur la vérité et non le mensonge. Et si cela porte à préjudice, nous avons notre patrie céleste en vue et non ce qui va disparaître de toute façon. Les chrétiens à Rome l'ont vécu. Ils ont vécu à la suite de Jésus, souvent ne disant rien et payant de leur vie leur attachement à Jésus, accusés faussement. Par exemple, que Rome a été brûlée par eux, ou d'autres choses encore. Pilate n'est pas prêt à subir de fausses accusations sans rien dire. Il veut la tranquillité, quel que soit le coup, même s'il faut faire des actions injustes et violentes. Pourtant, il n'est pas à l'aise avec Jésus. On le voit dans ça, il n'est pas à l'aise. Il déteste les Juifs, il ne veut pas exécuter ce qu'ils veulent. Il cherche donc un moyen d'échapper à ce jugement qu'il devrait rendre. Nous arrivons donc à notre deuxième point. Quelle stratégie Pilate utilise-t-il pour juger Jésus ? Alors lisons les versets 6 et suivants. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Un nommé Barabbas était en prison avec des émeutiers pour avoir, lors d'une émeute, commis un meurtre. La foule monta et se mit à demander ce qu'il avait coutume de faire pour eux. Pilate leur répondit, « Que voulez-vous, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les principaux sacrificateurs soulevèrent la foule pour que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate est un personnage qui apparaît dans Marc 15, et en voilà un deuxième. Il s'agit de Barabbas. Marc indique que c'est un émeutier qui a commis un meurtre. Marc est précis ici. Alors Pilate connaît les motivations des accusateurs de Jésus. Ils sont venus le livrer par jalousie. Judas avait livré Jésus par appât du gain. Les chefs religieux veulent éliminer l'ombre que Jésus fait sur eux. C'est eux qui veulent être sous les projecteurs. Pilate sait bien que les chefs religieux aimeraient être acclamés comme Jésus qui, une semaine avant, a fait une entrée triomphale à Jérusalem. Pilate, en fait, il connaît cela. Mais il ne met pas en lumière la raison pour laquelle Jésus est dans la salle du jugement. Il ne met pas en lumière. Pilate ne met pas en lumière la raison pour laquelle Jésus est dans la salle du jugement, ce qui aurait été juste. En contraste, il y a un grand contraste avec Jésus-Christ. Jésus a toujours mis en lumière les cœurs. Jésus a toujours mis en lumière les cœurs. Pilate, lui, cherche à le cacher et régler l'affaire par manipulation. Pilate cherche à cacher et régler l'affaire par manipulation. Comme la foule a acclamé Jésus une semaine avant, Pilate a une idée. Il va chercher l'appui de la foule pour éviter ce jugement. Il va proposer de libérer Jésus, qu'ils ont acclamé une semaine avant, ou bien un meurtrier. Et la foule va tout de suite faire la différence. Préférer la libération de celui qu'ils ont acclamé au lieu de libérer un meurtrier. Et il sera ainsi libéré de ces juifs qui lui tapent un peu sur les nerfs. Alors il propose Barabbas. Barabbas, ce nom veut dire fils du père. Ça c'est intéressant. On a le fils du père et le fils de Dieu qui sont ici présentés. Et ils sont en concurrence, on pourrait dire. L'un veut régner en prenant la vie des autres. L'autre va régner en donnant sa vie pour les autres. L'un veut usurper la place du roi. L'autre est roi. Mais il ne se défend pas, il accomplit sa tâche. L'un est coupable et il sera libéré. L'autre est innocent et il sera condamné. Nous avons en fait ici une illustration de l'évangile. Nous avons une illustration de l'évangile. Le juste, Jésus, qui meurt à la place de l'injuste, Barabbas. C'est assez fort ce qui se passe ici. Alors la différence, c'est que l'évangile se saisit par la foi. Ici, on n'a pas cet aspect-là. Par contre, on a vraiment cet aspect de la mort d'un juste pour l'injuste. Et là, je vous cite ce que dit Ryle, que je trouvais vraiment aussi fort ici. Le coupable est libéré et l'innocent est condamné à mort. Le grand pécheur est délivré et le sans-péché est lié. Barabbas est épargné et Jésus est crucifié. Nous avons ici un exemple de la manière dont Dieu pardonne. Il le fait parce que Christ a souffert à sa place. Le juste pour les injustes. Ils méritent la punition, mais un substitut parfait a souffert pour eux. Ils méritent la mort éternelle, mais un glorieux garant est mort pour eux. Et Romains 5 nous dira même que Christ est mort alors que nous étions encore pécheurs. Ça, c'est l'évangile. Et nous allons le saisir par la foi. Revenons à Pilate qui se débat pour se débarrasser de l'affaire Jésus. Mais il ne met pas en lumière le péché de la jalousie des principaux sacrificateurs. Est-ce que c'est parce que lui-même ne veut pas qu'on éclaire ses propres péchés? Pourtant, l'évangile, c'est justement mettre la lumière sur le côté sombre pour qu'il soit nettoyé. Oui, cela implique un moment de honte et d'humiliation. Personne n'aime vivre ce moment où la lumière éclaire notre lieu sale dans notre vie. Enfin, pour ma part, c'est assez clair. Et malheureusement, des fois, je me débats pour dire « Non, je ne veux pas qu'on regarde ça. » Non, c'est vrai que nous n'aimons pas quand la lumière est mise sur notre péché. Mais quand Dieu met la lumière sur notre péché, c'est pour nous en débarrasser. C'est pour que par la suite, nous puissions être sans honte et prêts à être tout le temps dans la lumière. Que Dieu nous donne cette grâce de permettre à cette lumière d'éclairer nos vies. De ne pas jouer à des manipulations, de chercher à transmettre aux autres les responsabilités. Pilate a cherché ça, on va encore le voir, il a continué à le faire. Non, laissons la lumière éclairer afin que nous puissions être libérés. Pilate n'a rien éclairé. Et maintenant, pour l'éternité, nous ne nous souvenons pas de lui comme quelqu'un qui a fait triompher la vérité, mais comme celui qui a condamné Jésus-Christ à mort. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous nous souvenons de Pilate. En contraste, Jésus a toujours fait triompher la vérité. Il met la lumière sur les motivations coupables pour les nettoyer. Réjouissons-nous qu'il soit mort pour ses fautes et laissons-le nous éclairer afin d'être délivrés de nos péchés. Vous savez, il y a un texte qui est très fort dans les Proverbes qui dit ceci. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Proverbe 28, 13. La foule est versatile. Oh là, j'ai utilisé un mot. Versatile, ça veut dire, Kirill ? Non, je vais t'expliquer. Versatile, ça veut dire qu'il change facilement d'opinion. Qu'il peut tout à coup changer d'avis, comme ça. La foule est versatile. Et si Pilate sait utiliser la force militaire, les chefs religieux savent soulever une foule. Pilate pensait avoir trouvé une bonne solution avec le prisonnier lâché. Et comme Barabbas était un homme mauvais, notoirement connu, tout devait se passer comme prévu. Mais rien ne se passe comme il voudrait. Il n'arrive pas à se débarrasser de Jésus sans devoir prendre position. Mais il n'a pas encore abdiqué. Et c'est notre troisième point. Que fait Pilate face à la foule concernant Jésus? Lisons les versets 12 à 15. Pilate reprit la parole et leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et crier encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate voulut satisfaire la foule et le relâcha Barabbas, et après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Pilate ne veut pas prendre la responsabilité du sort de Jésus. Il demande à la foule. Mais quel aveuglement! Quel aveuglement! Cette foule vient d'être manipulée pour demander Barabbas plutôt que Jésus. Pilate devrait comprendre que rien de bon ne peut venir de cette foule manipulée, mais il ne veut pas prendre position pour Jésus. Pilate doit bien trouver un moyen pour prendre une décision et laisser la responsabilité de ce qui sera fait à Jésus. L'opinion publique, voilà ce qu'il cherche. Il pourra ensuite dire, « Eh ben, je ne pouvais pas faire autrement. Tout le monde pensait comme ça. Je ne pouvais pas faire autrement. » Et qu'est-ce que la foule crie ? Crucifie-le. Crucifie-le. Pilate est pris à son propre piège. Il ne contrôle pas la foule. Il ne pourra pas sauver Jésus. Mais au moins, ce n'est pas lui qui aura prononcé ou qui aura suggéré la sentence. Quel contraste! Mais quel contraste entre un homme qui se fait manipuler par une foule qui ne veut pas prendre de responsabilité et Jésus qui a enseigné la foule, qui l'a nourri, qui en a eu compassion, qui la voyait comme des brebis sans berger, qui la conduisait. Pilate était gouverneur. Il aurait dû conduire dans la justice toute la foule. Quel contraste! Jésus a enseigné la foule. Il l'a nourri et a même eu compassion de la foule qu'il voyait comme des brebis sans berger. Pilate n'a aucune considération pour les personnes qui sont dans cette foule. La seule chose qu'il veut, c'est qu'elle ne se soulève pas contre lui et qu'il n'ait pas de responsabilité dans cette situation avec Jésus. C'est vrai que le verset 14 nous montre qu'il n'est pas tranquille quand même. Il n'est pas tranquille, Pilate. Il aimerait satisfaire sa conscience et cherche à faire réfléchir la foule. Hein. Mais sa question « Quel mal a-t-il fait ?» indique implicitement qu'il ne voit lui aucun mal en Jésus. Sinon, il le dirait, il le jugerait. Mais la foule, tout comme l'opinion publique, une fois soulevée et chauffée, devient ingérable et complètement irraisonnable. Si assez de gens crient assez fort une affirmation, elle devient la vérité, même si une grande partie de la foule ne sait pas vraiment ce qu'ils disent ou défendent. Et Pilate ne demande pas le silence. Il ne donne aucune explication. Il ne cherche pas la justice. Il fait semblant de défendre Jésus, mais ne le fait en fait pas du tout. Quel contraste avec notre gouverneur divin. Jésus s'est tenu devant les foules prêtes à se faire lyncher. Il était prêt à se faire lyncher et torturer pour sauver son peuple. Quel contraste! Pilate a la capacité de délivrer Jésus. Il peut le rendre libre. Une parole de sa part et Jésus est libre. Pilate semblait vouloir satisfaire sa conscience en disant que Jésus était juste. Mais en fait, c'est la foule qu'il veut satisfaire, en méprisant celui qu'il sait innocent en face de lui. Et là, cette phrase, elle est terrible, hein, au verset 15. Pilate voulut satisfaire la foule. Pilate voulut satisfaire la foule. Pilate satisfait la foule en relâchant un meurtrier. Pilate satisfait la foule en faisant battre Jésus. Pilate satisfait la foule en livrant Jésus pour être crucifié. C'est horrible toutes ces choses. Lui, il ne pense pas à ça. Il pense juste au fait qu'il faut que la foule le laisse tranquille. Pilate veut satisfaire la foule. Et nous, est-ce que nous ne voulons pas souvent satisfaire la foule, l'opinion publique, la pensée ambiante de notre société sans Dieu? Quelqu'un disait quelque chose d'intéressant. Il disait « Attention, lorsque tout le monde vous aime » ou « Attention, lorsque tout le monde vous déteste ». Dans les deux cas, il faut faire attention. Parce que si tout le monde nous aime, même ceux qui n'aiment pas Jésus-Christ, ne serions-nous pas en train de chercher à satisfaire la foule? Et si tout le monde nous déteste, même ceux qui aiment Jésus-Christ, ne serions-nous pas en train de chercher à satisfaire quelqu'un d'autre que Jésus-Christ? En fait, nous sommes appelés non pas à satisfaire la foule, mais à satisfaire Jésus-Christ, comme lui a cherché à satisfaire son Père. Jésus le juste, le parfait, qui amènera l'opposition de ceux qui n'aiment pas Jésus-Christ, ça c'est vrai. Si vous prenez position pour Christ, si vous prenez position pour ce qu'il dit dans sa parole, vous aurez de l'opposition de ceux qui ne veulent pas de sa parole. Ne cherchons pas à satisfaire la foule. Cherchons à satisfaire Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, non seulement va être fier de nous, mais il va nous soutenir, nous encourager et même nous préparer une place. Nous avons en fait une vision d'éternité extraordinaire. Et les tracas que nous pourrions avoir ici-bas, en comparaison à la gloire que nous vivrons, ne sont rien. Attention, je ne minimise pas. La gloire est tellement grande que ce n'est rien. Même si parfois ça peut être très difficile, c'est vrai. Mais Jésus, lui, notre exemple, n'a jamais cherché à satisfaire la foule. Il a cherché à la nourrir, à en prendre soin, à la protéger contre tout faux enseignement. Il a toujours cherché à satisfaire son Père, comme je viens de le dire. Donc cherchons à satisfaire Dieu, qui seul peut nous garder pour l'éternité. Et en conclusion, j'aimerais terminer par vous lire une méditation en lien avec ce texte, particulièrement le verset 15. Jésus, après un procès devant le Sanhédrin, est amené à Pilate. L'évangile de Marc ne le précise pas, mais nous savons que les Juifs n'avaient pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Pour cela, il fallait passer par le gouverneur romain en place. Pilate est le gouverneur de l'époque. Un homme qui tenait à son poste et qui ne voulait pas qu'une affaire de mécontentement du peuple arrive aux oreilles de son supérieur, l'empereur, à Rome. Pourtant, il semble que Pilate avait du discernement, qu'il était capable de juger si une personne était coupable ou non. Marc précise, au verset 10, que Pilate savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais ces mêmes accusateurs utilisent une arme puissante, la foule, ce que l'on appellerait aujourd'hui l'opinion publique. Pilate est mal pris. Il se retrouve entre le choix de pratiquer la justice ou de ne pas compromettre sa place de gouverneur de Judée. Les chefs du peuple juif étaient capables de faire parvenir des calomnies concernant Pilate jusqu'à Rome pour parvenir à leur fin. Entre parenthèses, ils avaient déjà fait des choses pareilles face à Pilate. Cette situation n'est malheureusement pas isolée et unique. Combien souvent celui qui a le pouvoir veut satisfaire la foule au détriment de la justice? Ce n'est plus le droit et la justice qui sont le fondement de la société, mais l'opinion publique qui définit les lois à adopter ou à abroger. La dépénalisation de l'avortement en Suisse en est un exemple criant. Ne pensons pas seulement aux gouvernements qui, pour la plupart, sont païens et ne suivent pas la parole de Dieu, mais pensez aussi aux ministres de la parole, aux pasteurs, qui, par peur de l'opinion publique, n'osent plus aborder certains sujets, tels que l'enfer, la manière non biblique d'aborder ou de vivre la sexualité, l'hérésie de l'Église catholique romaine, etc. C'est aussi vouloir satisfaire la foule. Car en évitant ces sujets, les enfants de Dieu ne reçoivent plus l'enseignement de Dieu complet de la parole de Dieu, mais uniquement ce qui semble politiquement correct. À ce rythme-là, il n'y aura bientôt plus d'enseignement biblique, car comment parler de Jésus-Christ comme étant le seul et unique chemin pour le salut? Un salut qui passe par la croix, par la compréhension de son état de pécheur, et être corrompu dans tous les domaines, son besoin d'un sauveur en dehors de nous-mêmes, les comptes que nous devons rendre à Dieu. Tout cela est folie et même vu comme provocation. Que reste-t-il si nous voulons plaire à la foule? Un autre évangile, comme le dit si bien le Saint-Esprit par l'apôtre Paul aux Galates, qui n'en est pas un. Mais ce n'est pas seulement les prédicateurs, c'est aussi chaque chrétien qui est appelé à se demander s'il ne cherche pas à plaire à la foule. Que disons-nous devant des personnes qui défendent des positions éthiques contraires à la Bible? Que répondons-nous à ceux qui disent que toutes les religions mènent à Dieu? Quelle réaction avons-nous devant les gens qui font passer les pires horreurs en disant que la Bible dit qu'il faut nous aimer les uns les autres? Donc laisser chacun parfaitement libre de ses choix, accepter et même soutenir les pires péchés selon Dieu. Pilate nous devient tout à coup beaucoup plus proche. Que choisir? La justice et peut-être la perte de ses privilèges dans la société, ou satisfaire la foule au détriment de notre conscience, de la volonté de Dieu et donc de la relation avec Dieu? Il est facile de choisir face à un texte, ici, là, ce matin. Il est plus difficile de réagir devant une situation réelle, demain ou après-demain. Ô mon Dieu, donne à mon âme de te rechercher toujours, de ne pas vouloir garder mes droits au détriment des tiens, et de t'aimer, te servir par-dessus tout, et que je cherche à te satisfaire, et non la foule, qui n'est que passagère et versatile. Et merci, mon Dieu, que Jésus est l'opposé de Pilate, un roi bon qui donne sa vie pour ses sujets. Je termine en continuant la prière. Prions. C'est vrai, Seigneur, nous sommes époustouflés de voir comment un homme qui devait rendre justice s'est laissé aller à toutes sortes de moyens pour s'extirper de cette situation et ne pas prendre position devant Christ. Seigneur, j'aimerais te prier de nous donner cette grâce, de ne jamais être dans cette situation, de ne pas vouloir prendre position face à Christ. J'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à réfléchir lorsque nous pensons à Pilate, afin de ne pas chercher à plaire à la foule, afin d'être à l'opposé, de suivre ce magnifique exemple de ce gouverneur, de ce roi que tu es, que Jésus-Christ est pour nous, qui se donne, qui cherche le bien, qui veut la justice, qui veut la vérité, qui éclaire les choses difficiles, c'est vrai, les péchés, mais non pas pour enfoncer, mais pour délivrer. Oh, j'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à vivre cette grâce de pouvoir être sauvé en Jésus-Christ et de le suivre avec courage. Nous pensons à tous ces toutes ces personnes qui ont reçu cet évangile de Marc à Rome, qui ont saisi le courage de Christ, qui ont voulu être à sa suite, qui ont été prêts même à ne pas répondre aux fausses accusations, qui les amenaient dans les arènes, qui les amenaient à la mort, parce qu'ils savaient qu'ils avaient un avenir meilleur avec toi, parce qu'ils étaient tellement proches de toi, ils étaient tellement convaincus, ils avaient cette foi en toi, qu'ils pouvaient tout perdre sauf toi. Et j'aimerais, Seigneur, te prier de nous donner cette grâce, de le saisir encore un peu plus, et de nous réjouir, parce que tu nous donnes une grande liberté ici pour vivre notre foi, et d'en profiter pour être ces témoins autour de nous de ton œuvre, que cette œuvre soit claire, que cette œuvre soit remplie aussi de ta bienveillance, et que nous nous réjouissions, Seigneur, de te voir à l'œuvre, et que nous cherchions non pas à satisfaire la foule, mais à te satisfaire en réponse à ton amour pour nous. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.